Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'émission Parlons-en aujourd'hui, dans l'émission Parlons-en, et on a un invité de prestige. On reçoit aujourd'hui André Ben-Simon, vous êtes directeur du fonds Myriam. On va parler de ce fonds dont on a beaucoup entendu parler pendant la crise Covid, qui est... sans déflorer le sujet, intervenu pour venir en aide à pas mal d'associations communautaires. Vous nous expliquerez un petit peu tout ça. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi à Olivier Samuel.
Bonjour.
Voilà, qui est membre du Consistoire et qui a été à l'initiative, je dirais, de la, enfin, qui a promu et qui a aidé à la promotion du fonds Myriam dans la région Est. Et il nous expliquera de quelle manière. Au sein du consistoire et puis de manière plus large sur d'autres associations puisqu'il a eu la bonne idée, j'ai envie de dire, de mutualiser l'information. André Ben-Simon, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre parcours, de ce qui vous a amené aujourd'hui au fonds Myriam, votre engagement, de votre vie, voilà.
Très bien, écoutez, donc d'abord bonjour et merci de m'accueillir ici à Strasbourg. Mais je suis un juif qui habite en France depuis plus de 50 ans. Originaire du Maroc, je suis venu à l'âge de 6 ans à Paris. Et puis j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le monde du high-tech. J'étais dirigeant d'entreprise, j'avais ma propre entreprise, ma propre société de services en informatique. Et je l'ai revendu en 2015. Et depuis, je m'occupe de start-up et de conseils pour des entreprises en développement. Disons que je travaillais à mi-temps depuis 2015. Et avec le Covid, il y a eu cette initiative dont je vais parler tout à l'heure de la création du fonds Myriam, une initiative unitaire très intéressante. Et David de Rothschild, vers le mois de juin 2020, m'a contacté pour savoir si j'étais disponible pour m'occuper de ce fonds pendant 3 ans. Et j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté, j'avais du temps. J'avais aussi envie de donner du temps, des compétences, mon expérience pour la communauté.
C'est votre premier engagement communautaire
ou c'est mon déjà premier véritable engagement communautaire.
J'avais
du bricolage un petit peu. Je côtoyais, mais sans vraiment m'impliquer, j'étais vraiment très occupé par mes activités professionnelles. Quand on dirige une entreprise, c'est très difficile de dégager du temps. En tout cas, pour moi, c'était très difficile. Et donc, j'avais quand même cette envie de pouvoir mettre à disposition de la communauté temps, compétences. Voilà. Et donc, je l'ai fait. Je ne regrette absolument pas. Je vais en parler. Voilà, je suis très content de l'avoir fait.
Vous attendiez à ce que ce fonds ait le succès qu'il a eu? Est-ce que les choses se sont passées? Il faut reprendre un petit peu, enfin remettre un peu le contexte.
Oui, on va reprendre un peu l'histoire.
David de Rothschild l'a fait parce qu'on rentrait dans cette période compliquée, qui est celle du Covid-19, et puis et de la difficulté pour l'ensemble des acteurs économiques, a fortiori pour les acteurs économiques associatifs. Et c'est quoi? Il y a eu une prise de conscience à un moment, on s'est dit on rentre dans une période compliquée.
Exact. Donc d'abord, je crois qu'il faut saluer cette prise de conscience très rapide des grandes fondations et institutions juives, au mois d'avril, quoi, quelques semaines après le Covid. C'est-à-dire, on se réunit à plusieurs fondations, on initie une démarche unitaire pour créer un fonds et ensuite doter ce fonds d'une petite structure opérationnelle pour pouvoir délivrer le service.
Donc, petite structure, il faut que ce soit très agile.
Voilà, exactement. C'est une bonne idée. Donc, c'est comme ça qu'ensuite David a pris la présidence de ce fonds, David de Rothschild, et donc il m'a appelé pour savoir si j'étais d'accord pour le diriger, quoi. Voilà. Donc, donc en fin de compte, il s'agit de quoi? Donc, des grandes fondations, Fondation pour la mémoire de la Shoah, Fondation Rothschild, Fondation Sacta Rachi et le fonds Arevim. Donc, 4 grands acteurs de la vie juive mettent ensemble de l'argent pour 3 ans et le déposent sur un fonds. Et puis, ensuite, il s'agit de distribuer, entre guillemets, intelligemment, le plus intelligemment possible, le plus équitablement possible, cet argent auprès du tissu associatif français, communautaire, pour les aider à traverser les conséquences économiques de la crise du Covid.
D'accord. Avec elle, au départ, vous partez d'une page blanche où on vous donne déjà des guidelines. Vous savez, c'est quoi ? Vous avez une somme d'argent, vous devez l'affecter. Il y a des critères en particulier qui avaient été définis ? Est-ce que vous privilégiez, par exemple, le social en premier, le fait que les gens aient de quoi manger ou alors, est-ce que, comment ça s'est un peu articulé
d'abord,
tout ça ?
D'abord, nous sommes partis d'une petite étude préalable qui a été menée au mois de juin par Julien Roitman et deux bénévoles. Donc ils ont mené pendant un mois une étude pour savoir quels étaient les besoins. Donc ils ont sorti un petit rapport qui a quand même donné des premières lignes. Et donc on est parti de ce rapport et à partir de là, on s'est confronté aux réalités du terrain. Et en se confrontant aux réalités du terrain, on a affiné notre démarche et nos prévisions budgétaires. Donc effectivement, donc on intervient dans plusieurs domaines. Donc le domaine du social, qui est le domaine premier qui a été le plus touché en fin de compte. En quoi ? C'est qu'il y a de plus en plus de monde, de familles, de jeunes, de personnes âgées, d'étudiants qui ont besoin de se faire aider. Et donc en fin de compte, les associations qui sont caritatives, qui interviennent dans le domaine du social, ont besoin de dépenser plus d'argent. Elles doivent donner d'abord plus d'argent aux mêmes personnes qu'elles ont l'habitude d'aider et elles ont besoin d'aider plus de personnes. À peu près 30% d'augmentation en moyenne dans toutes les activités sociales.
Alors cette augmentation des besoins sociaux, elle était déjà marquée avant la crise Covid. Vous avez noté un renforcement de...
Voilà, nous d'ailleurs on intervient sur le différentiel. Moi, une grande partie de mon travail, ça consiste à déjà bien identifier le différentiel entre l'année, ce que j'appelle N-1, c'est-à-dire 2019, avant le Covid, et ensuite l'année 2020, post-Covid, ou l'année 2021. Et donc, de comprendre ce différentiel. Et c'est sur ce différentiel qu'on intervient. Et le différentiel, il est énorme sur le plan social. Énorme, gigantesque. En moyenne, 30%, mais dans certains domaines, dans certaines associations, 50% d'augmentation.
C'est quoi ? C'est des gens qui ont perdu leur travail ? C'est des gens qui se sont retrouvés en chômage technique avec une perte de revenus ?
Exactement. Les familles monoparentales. Plus les familles, plus les personnes sont dans une situation précaire, et plus ils ont été touchés. Beaucoup des petits boulots, certains payés comme ci et comme ça, tout cela sont tombés. L'État a beaucoup aidé, heureusement, mais ça n'a pas suffi. Donc le domaine du social, ensuite le domaine de l'éducation, les écoles juives, c'est le deuxième grand domaine. Les écoles juives ont beaucoup souffert. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que beaucoup de parents dans les écoles juives n'ont pas pu payer les frais d'écolage pendant le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai.
Ce sont des dommages collatéraux finalement des familles qui étaient en difficulté
vers
qui
ont pu
régler et du coup les écoles sont
et il n'y a pas une seule école, en tout cas ma connaissance, qui a mis une famille dehors parce qu'elle ne pouvait pas payer, donc elles ont gardé tous les enfants juifs, il n'y a pas un enfant juif qui a quitté l'école, donc du coup elles ont mis leur situation économique en déséquilibre et donc on les a aidées et puis elles ont eu des dépenses supplémentaires, les dépenses sanitaires elles ont été fortes pendant la crise du Covid, et puis la perturbation du travail, ça a été, sans parler de toutes les personnes qui sont tombées malades, sans parler de celles qui sont décédées, il y a eu des directeurs d'école qui sont morts pendant la crise du Covid. Donc il y a eu beaucoup de perturbations dans les écoles, ça c'est le deuxième secteur. Ensuite il y a le secteur des centres communautaires, qui sont quasiment arrêtés, quasiment plus d'activités, plus de recettes, il s'agit de repartir, et pourtant il faut payer pendant ce temps-là les loyers, les frais, etc. Il y a les synagogues, et puis il y a toute la vie associative. Il y a la jeunesse, tous les départements jeunesse, qui a beaucoup souffert également. Donc on a vraiment des domaines très larges. Et donc on a effectivement, prévu un budget réparti sur ces différents domaines. Je dirais qu'un tiers pour le social, un tiers pour les écoles juives et un autre tiers pour le reste des activités.
Alors vous avez parlé de la communauté, c'est intéressant, ça me donne une transition toute faite. Olivier Samuel, comment vous avez entendu parler de ce fonds Myriam ? Comment ça vous est venu à l'idée de se dire, tiens, il y a le consistoire, les communautés ici à Strasbourg souffraient, et on n'était pas différents des autres. Et comment ça s'est articulé, en fait ?
Assez facilement, puisque en fin de compte, comme je m'occupais je dirigeais la cellule de crise pendant la période de la crise Covid, postérieurement, comme l'a très bien expliqué André, il y a eu une petite étude qui a été faite par les quatre fondations au mois de post-crise, en fin de compte, première vague, on va appeler ça, en mai. et juin. Et donc, j'ai fait partie de l'étude où j'ai été audité.
Tu es impliqué dans l'étude préalable, en fait. Donc, ouais,
il y avait une vingtaine d'entretiens qui ont été organisés pour cette étude. Et j'étais dans les 20, parce que comme je m'étais occupé de Strasbourg, et il y avait un retour attendu là-dessus. Donc, on a eu un grand travail de réflexion avec, dans le cadre de cette micro-étude, parce qu'ils ont fait cibler, enfin, ils ont fait une vingtaine d'entretiens, mais très ciblés et très denses. Et effectivement, ça a été, même pour moi, c'était intéressant de prendre du recul par rapport à ce qui s'était passé et sur quoi on se projetait. Et donc après, j'étais tenu au courant de la suite de la création du fonds. Et dans ce cadre-là, d'une part, j'en ai tenu au courant un peu les associations autour, dans la radio et dans le tissu associatif que je connais bien ici, en étant impliqué depuis toujours. Et puis de l'autre côté, nous, on a réfléchi au consistoire comment se positionner par rapport à ce soutien possible du fonds. Et on a voulu avoir une approche assez particulière, puisque, en fin de compte, on a considéré que, contrairement à d'autres, le passif Covid, on arrivait à le gérer. Parce qu'on avait été au rendez-vous et parce que au niveau de nos donateurs, on était arrivé à mobiliser tout le monde pour continuer à nous soutenir.
Donateurs, bénévoles, il y a une mobilisation sans précédent sur Strasbourg. Hein.
Mais que par contre, grâce, et je dis bien grâce de façon provocateur à cette crise, on avait pu aussi voir les limites par rapport à notre organisation actuelle et nos défaillances, nos évolutions possibles. Et donc on a eu le souhait de travailler sur la partie plutôt prospective. Et de présenter un dossier au Fonds Myriam plutôt de soutien prospectif, d'une part dans la digitalisation, que ça soit infrastructurel ou de communication, et d'autre part sur la partie managériale, c'est-à-dire l'accompagnement des équipes à évoluer dans leur méthode de travail, dans leur fonctionnement, pour pouvoir être de plus en plus agile au quotidien et face à cette nouvelle situation.
En fait, et on en avait discuté, hein, vous êtes plus inscrit dans l'avenir, dans la projection vers l'avenir, plutôt que dans la crise Covid à proprement parler, qui était plutôt...
On a utilisé en fin de compte l'analyse de la crise Covid dans les bons et les mauvaises choses pour pouvoir réfléchir sur comment se projeter dans les années à venir. Et je crois que c'est même ça qui a je crois, assez interpellé le Fonds Myriam dans notre approche, parce qu'on a été un des rares acteurs à être plutôt dans une logique prospective que dans une logique gestion du passif.
Ouais, ou gestion d'urgence. D'accord. Comment se passait justement les... André Ben-Simon, comment se passaient les études de dossier? Vous disiez, on était une petite équipe, on voulait être... réactif, agile, vous l'avez dit, hein, l'agilité, c'est mieux on est plus agile quand on est quelques-uns que quand on est une armée mexicaine.
Oui.
Comment ça se passait? Vous receviez des dossiers à Paris, vous vous mettiez un petit conciliabule de quelques personnes et puis vous regardiez. Il y avait des critères particuliers, comment vous avez fait pour essayer d'être juste finalement dans le traitement des dossiers?
Exactement. Donc on reçoit des dossiers. C'est-à-dire qu'on va pas les chercher.
Oui, c'est vrai que je parle au passé, pardonnez-moi, mais ce fonds, il est pour 3 ans.
Ah ouais, là, on travaille. On travaille tous les jours. Tous les jours, on reçoit des dossiers. Aujourd'hui, on reçoit des dossiers. Donc, on reçoit des dossiers sur Internet.
Vous avez suscité de l'intérêt, là, je vous le dis. Hein.
Ouais, je sais. Ouais. Donc, je me provoque moi-même le travail. Donc, on reçoit des dossiers. Je les étudie. Donc, étudier un dossier, ça veut d'abord comprendre de quoi ça parle, rencontrer les gens. La plupart du temps, sur site, c'est le mieux. D'accord. Ensuite, je rédige une sorte de fiche de synthèse. Et tous les jeudis matins, pendant 4 heures, on a un comité d'arbitrage. Donc un comité d'arbitrage qui est composé des différents directeurs des fondations qui sont à l'origine de Myriam.
D'accord.
Et on se réunit et on arbitre les décisions. C'est-à-dire, on aide ou on n'aide pas. Et à quel niveau? Et selon quelles conditions? Et donc, on délivre le résultat dans la foulée. Ce qui fait que comme j'ai un comité tous les jeudis, on peut aller très vite. Je peux étudier des dossiers des fois en 15 jours, 3 semaines. Je reçois un dossier et je donne la réponse 2 semaines après, 3 semaines après, de temps en temps, un mois et demi, 2 mois, pour des sommes importantes, c'est-à-dire plus de 100 000 euros. On passe en ce qu'on appelle en conseil d'administration, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration avec les présidents, cette fois-ci, des fondations qui sont à l'initiative de Myriam. Et là, ça se réunit tous les 3 mois et on arbitre les dossiers supérieurs à 100 000 euros.
D'accord.
Donc ça prend un peu plus de temps pour ces dossiers-là.
Olivier Samuel, vous vouliez intervenir?
Ouais, Patrick, c'est là où il faut vraiment que j'insiste. C'est là où il y a toute l'innovation. Enfin, ce que vient de vous expliquer André, c'est là où il y a le pivot, le changement et aussi de bonnes pratiques et d'innovation dans le mode de fonctionnement de la vie communautaire française, où il y a eu un vrai changement et un paroxysme, où il y a eu quelque chose qui a changé. Pourquoi? parce que c'est la première fois qu'on arrive à mettre quatre directeurs d'une fondation, des quatre fondations autour d'une table. Qu'ils ne vont pas juste décider dans un bureau comment ça va se passer, mais qu'ils vont se voir toutes les semaines. Que toutes les semaines, ils vont travailler ensemble. Que toutes les semaines, ils vont réfléchir ensemble, chacun avec des idées différentes, avec des profils différents, tout en ayant un point commun qui est l'intérêt général, l'intérêt communautaire et l'altruisme communautaire. Et là-dessus, il faut souligner que l'initiative qui a été mise en place, en dehors de l'aspect financier, philanthropique au sens économique, il y a eu un vrai sujet aussi de repenser notre mode de fonctionnement communautaire, où on a décloisonné les financements, mais on a aussi décloisonné les façons de penser, et aussi mutualisé une réflexion prospective commune, parce qu'on est en fin de compte en train de reconstruire notre tissu communautaire post-crise, mais aussi et celui de demain, quoi, d'aujourd'hui et de demain. Et cette approche-là, d'une réunion hebdomadaire, avec ces entre l'agilité et la gouvernance, on a vraiment mis en place on est vraiment face à quelque chose de très innovant et qui est extrêmement efficace et qui portera, à mon avis, ses fruits à d'autres échelles parce que c'est des gens qui, des fois, ne se parlaient pas. Et que ce soit au niveau des présidents ou que ce soit au niveau des directeurs. Et l'enjeu est majeur parce que c'est en gros 80% du financement de la vie associative communautaire, quoi.
En débrouillant, Simon, justement, c'est ça qui est assez remarquable en fait dans la démarche qui a été initiée, c'est cette proximité. On voit, il y a de la rapidité. Nous, on a, je le dis et je vous en remercie, la radio a bénéficié aussi de fonds parce qu'on a aussi beaucoup souffert. On avait avec Sybille travaillé le dossier de manière sérieuse et on a été assez surpris que le dossier ait été traité rapidement, que les fonds aient été versés rapidement. C'est un modèle, Olivier Samuel en parlait, c'est un modèle de réflexion peut-être pour des grosses associations un peu... C'est important aussi dans des moments comme celui-là, oui. Parce que c'est dans ces moments de crise finalement que les choses se révèlent.
Parfaitement.
Moi je me souviens ici, qu'on avait rencontré la fondation de la Choix il y a quelques années, qui fait un travail exceptionnel, mais on avait le sentiment quand même malgré tout, on se disait oulala, c'est bon, il y a des aides, il y a des choses qui interviennent, par contre ça a l'air compliqué, ça a l'air long, on ne sait pas trop finalement qui étudie notre dossier, on a le sentiment d'être face à une quasi-administration. Et vous pensez que ce que vous avez initié avec ces fondations-là servira de modèle pour d'autres associations? Bon. On vous demande, on vient vous voir pour vous dire, pour vous demander aujourd'hui comment vous fonctionnez, quel est votre mode de décision, etc.
Bon, attendez. D'abord, il faut voir qu'on a créé un outil adapté à la situation et au contexte, avec donc très peu de contraintes. Je n'ai quasiment aucune contrainte. Voilà. Donc, pour pouvoir aller vite, mais je veux bien expliquer que vite, ça ne veut pas dire ne pas étudier les dossiers. Nous étudions les dossiers très sérieusement. À ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait fait d'erreur jusqu'à présent. On a étudié 150 dossiers, on a aidé 150 associations sur 165 dossiers reçus. Donc on travaille très sérieusement, mais très vite. Mais par contre, je n'ai pas de contraintes. Donc chaque grande fondation a un autre contexte. Donc il faut qu'elles appliquent aussi des contraintes liées à leur propre contexte, leur propre conseil d'administration, d'où vient l'argent. Il y a des choses quand même des fois plus compliquées. Donc on ne peut pas peut-être nous-mêmes servir de point de repère pour d'autres fondations, etc. Il ne faut pas non plus tirer des leçons trop hâtives. Là, vraiment, on a la chance d'avoir un contexte très favorable pour pouvoir monter une cellule comme ça, agile. Et on bénéficie de la coopération de tous les directeurs de toutes ces fondations. Donc, on a essayé de faire en sorte de tirer les forces de tout le monde. Ça qui est bien. Et c'est ça qui est très efficace aussi. Voilà. Je voudrais insister sur un point, c'est que à partir de là, de cette année-là, on pivote un petit peu dans la façon dont on étudie les dossiers, c'est-à-dire que on s'éloigne un petit peu des conséquences directes du Covid et on s'attaque aux conséquences indirectes. Et pour le dire un peu autrement, on veut plutôt maintenant plus aider les associations à se relancer post-Covid ou disons avec ce nouveau contexte lié au Covid, parce qu'en fin de compte, il y a un nouveau contexte économique.
Finalement, voilà. Je vous interromps, pardonnez-moi, ouais. Finalement, ce qu'a fait le consistoire, ils étaient en phase 2 au moment de la phase 1, finalement.
Oui, exactement.
On est dans la prospective,
à Strasbourg, vous êtes
on se projette.
Voilà, à Strasbourg, vous êtes les meilleurs. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai qu'à Strasbourg, vous avez été des pionniers dans cette approche. Vous n'avez pas été les seuls. Il y a 4-5 dossiers comme ça dans la première année, mais parce que ces dossiers-là, ces associations...
Par contre, le consistoire, ici à Strasbourg, pardonnez-moi, ouais, a été de loin le meilleur sur la gestion de la crise et sur la production qui a été faite. Ah, moi, je le dis.
Ouais, d'accord, c'est bien. Non, sûrement, voilà.
Vous, en tout cas, j'ai compris... Vous êtes ici sur nos terres.
J'ai compris que vous êtes bien mobilisés et en tout cas, vous êtes très fiers de ce que vous avez fait et sûrement à juste titre. Non, mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que des associations qui ont pu se projeter dès la première année, c'est celles qui avaient la chance d'être robustes et de pouvoir avoir su résister à économiquement à la crise du Covid. Parce qu'il y a certaines, elles étaient à genoux et elles avaient absolument besoin de financement rapide pour ne pas tomber. Bon, maintenant que c'est un petit peu stabilisé, l'État a fait beaucoup, on a complété, mais maintenant, il faut se relancer. Il faut comprendre que le modèle et que le contexte a changé et que c'est l'occasion rêvée de se réinventer, de réfléchir à sa stratégie, à sa vision, à sa mission et de mettre en place des moyens pour atteindre des objectifs qui sont à ce moment-là nouveaux. Et nous, à Myriam, on va faire en sorte d'aider financièrement ces associations à relever ce challenge et on va aussi les accompagner avec des consultants que nous-mêmes allons financer et piloter pour aider ces associations à atteindre ces objectifs. Elles savent ce qu'elles veulent faire, mais parfois, c'est difficile de le faire tout seul. Donc, on va les accompagner.
C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on rentre dans une phase 2, finalement, dans laquelle on va pouvoir compter sur vous pour réaliser un audit sur la situation, se projeter potentiellement, oui, et ensuite, vous contribuerez en tout ou partie de ce qui est le budget sur l'avenir.
Exactement. Par exemple, il y a beaucoup d'associations qui veulent se digitaliser. Il y en a plein. Elles savent qu'il faut le faire. Il n'y a pas besoin de les convaincre. Ça coûte de l'argent. Mais plus difficile, comment faire? Comment s'y prendre? Quelle méthode de travail? Quel outil choisir? Comment former le personnel? Comment suivre l'évolution? Être sûr qu'on a bien fait? Bon, tout ça, c'est assez effrayant pour certaines associations. Donc, OK, pour donner 50 000 euros, mais surtout donner 10 jours ou 20 jours d'accompagnement d'un consultant qui, au fur et à mesure des semaines et des mois, va accompagner l'association pour... accompagner cette transformation et cette évolution. Je pense que c'est rassurant, voilà, et que ça peut les aider.
Pardonnez-moi, vous donnez de l'argent, André Ben Simon, vous vérifiez a posteriori comment elle est utilisée?
Un peu, pas tant que ça. On vérifie, on a un rapport d'activité qui est donné par les associations, c'est déclaratif. On est beaucoup sur la confiance. Les dossiers, on les étudie sur le plan des statuts, sur le plan des comptes. Je rencontre les gens. Je crois qu'on est quand même beaucoup sur le contact humain, sur l'intuition et sur le fait que les gens sont sérieux. Et j'ai rencontré plus de 300 personnes pendant ces 15 premiers mois. Je n'ai rencontré que des gens sérieux.
Engagés,
mobilisés, top, voilà, qui forcent le respect en fin de compte. Et qui nous oblige à être à la hauteur de leur propre niveau. Voilà. Même si de temps en temps, ce que j'appelle moi des amateurs ou des bricoleurs, c'est le terme que j'emploie en interne, ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas bien les méthodes professionnelles, qui de fois sont uniquement des bénévoles, mais elles le font
avec tant de cœur. Des bricoleurs de bonne volonté.
Des bricoleurs de bonne volonté, oui. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste pour dire que c'est des gens qui mettent tout leur enthousiasme, tout leur engagement pour réaliser des missions. Donc si on peut apporter un peu de méthode, un peu d'outils pour les aider et de l'argent, alors on le fait.
Olivier Samuel, vous voulez intervenir?
Et je crois que c'est vraiment pour moi dans la lignée en fait, ce que disait André, c'est qu'en fin de compte, l'enjeu n'est plus à l'argent. C'est-à-dire que l'argent, effectivement, c'est un sujet, c'est un moyen. Et c'est resté un moyen et que la finalité, c'est vraiment la responsabilité et l'engagement. Et je pense que cette crise aura démontré aussi la nécessité d'avoir des bénévoles et des professionnels responsables, engagés, professionnels. Et investir dans le temps, c'est aussi investir dans les moyens humains, techniques et financiers, mais l'humain reste en fin de compte, à mon avis, l'enjeu majeur. Et je crois que, et là-dessus, c'est vraiment la conclusion peut-être de cette initiative du Fonds Myriam, mettre les gens en responsabilité, être soi-même en responsabilité et engager et attirer les talents avec nous et créer une dynamique de responsable aux responsabilités.
D'engager aux responsabilités. Je parlais au passé parce que c'est vrai que, et on en a parlé hein, hors micro tout à l'heure, on a le sentiment que le Covid est derrière, ce qui n'est pas encore le cas, mais en tous les cas, on a le sentiment que ça va mieux et tant mieux. Du coup, c'est vrai que je parlais de votre aide au passé. Alors, vous parlez du futur, d'une nouvelle étape, et ça, c'est plutôt très positif. Mais on se dit que vous avez dû certainement beaucoup engager de fonds sur cette première partie. Il y a eu une réaffectation de fonds sur cette deuxième partie. C'est, sans parler de chiffres, c'est open bar, comment ça se passe? En fait, on a le sentiment, vos fondations ont trouvé que c'était pertinent, efficace, et puis ils ont dit, on y va, on recommence et on va aider pour le futur. Comment?
Non, c'est encore plus facile que ça. Je dispose de l'argent pour les 3 ans. On a déjà tout. Donc, et on n'a pas utilisé encore le tiers sur la première année. Donc, tout va bien. D'accord ? Donc, on peut encore accélérer. On peut encore accélérer et on aide bien évidemment dans la mesure de nos moyens. On n'a pas des moyens illimités, mais on a des moyens conséquents. J'ai l'habitude de dire, un peu par provocation, on n'a pas de problème d'argent.
D'accord.
On peut aider tout le monde. Et il faut des bons projets et des bonnes personnes pour les réaliser. C'est tout.
Les gens qui vous ont demandé, les associations qui vous ont demandé pendant la crise Covid de les aider et qui se projettent dans cette deuxième phase, qui est celle de l'après-Covid, peuvent repostuler chez vous ?
Doivent. Parfaitement.
Doivent repostuler.
Voilà, d'accord. Exactement.
L'idée que vous avez, oui, c'est on les a aidés au moment de la crise,
bien
maintenant
sûr.
On va les aider à
bien se projeter. Bien sûr, parce qu'on les connaît encore mieux, on a confiance, ils ont confiance en nous aussi. Bien sûr, ils sont pas prioritaires, mais c'est sûr qu'ils vont revenir, et d'autres, bien évidemment, des nouvelles associations aussi, qui ne nous connaissaient pas et qui vont nous solliciter cette année.
D'accord. Parfaitement. Alors, je voudrais le dire parce que ça me paraît important, parce que j'imagine que vous allez faire beaucoup de prétendants. On mettra les coordonnées du Fonds Myriam sur le site de la radio, de façon à ce que les associations à Strasbourg qui le souhaitent puissent vous contacter. Vous êtes encore engagé pour quoi sur cette mission? Encore une année?
Jusqu'à fin 2023.
D'accord.
On a 3 ans, 21, 22, 23.
Vous avez le sentiment que si, parce que ça semble être le cas, votre démarche, on l'a encore dit, elle est réactive, elle est... Elle a un certain nombre d'atouts. Vous avez le sentiment que les fondations qui aujourd'hui portent cette démarche souhaiteront la poursuivre au-delà des 3 ans?
Cette démarche-là du Fonds Myriam?
Ouais.
Ou le fait de travailler de manière plus agile?
Disons de mettre de l'argent en commun de façon à
c'est possible. Ouais. C'est possible. Peut-être pas pour le Covid, peut-être pour d'autres opérations, mais je crois que cette façon de travailler, de travailler de manière unitaire, de rassembler des forces, d'être en fin de compte ensemble plus fort que tout seul, je pense que oui, que ça peut faire un petit peu des leçons ou donner des enseignements ou attirer l'attention, disons. Maintenant, faut-il encore trouver les bonnes équipes, savoir fédérer.
J'allais vous demander, avec André Ben Simon,
Je sais pas. Bon, j'ai donné 3 ans en termes d'engagement, donc ça, je tiendrai l'engagement. Au-delà, et pour faire quoi, on verra. On en reparlera peut-être, ça va dépendre des besoins. Mais c'est très prudent, hein, je lève pas la tête, là. Bon, voilà.
On arrive au terme de l'émission et moi je voudrais qu'on la rende concrète.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'associations, sans citer les associations, mais que vous avez pu aider, sur lesquelles vraiment vous vous êtes dit rentrons chez vous? Je rentre le cœur léger, on a fait quelque chose de bien et on a évité quelque chose de catastrophique. Vous avez des idées en tête dans tous les projets?
J'ai plein d'exemples, bien sûr, mais peut-être... Une école, un réseau scolaire très important, des milliers d'élèves, je pense qui était en difficulté de trésorerie au mois d'avril, catastrophique, justement parce qu'ils ont eu des frais d'écolage qui ont diminué, ils ont refusé aucun élève et ils ne pouvaient plus payer les fournisseurs de la cantine. Ils étaient plantés. Donc on a débloqué plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc oui, ça, je pense que c'était très bien de le faire et ça les a.
Vous avez les yeux qui brillent là.
Hein. Ah oui,
ça les a décoincés
d'une situation vraiment dramatique avec des gens très sérieux, mais bon, qui étaient débordés par l'événement. Ça c'est un premier sujet. Bon, maintenant j'en ai un deuxième où je me déplace. Donc j'ai passé quelques jours à Marseille l'été dernier. Marseille est une région qui nous a beaucoup sollicité. On a reçu plus de 25 dossiers sur Marseille. Et j'ai rencontré une association là-bas qui s'occupe d'enfants handicapés. Et ils avaient besoin de constituer ce qu'ils appellent les week-ends de répit pour les parents. D'accord ? Donc augmenter leur activité pendant le week-end pour soulager les parents. Et on a financé cette activité. J'ai passé une journée, enfin une demi-journée avec eux et avec les enfants. Bon, c'est exceptionnel. Et quand on rencontre des gens comme ça qui donnent leur vie, enfin un couple puis avec leur famille, qui donnent leur vie entière comme ça pour une quarantaine d'enfants.
On peut les citer, ça ne vous embête pas ?
C'est Beyahad à Marseille.
D'accord.
Une famille exceptionnelle. Et donc, quand on revient d'une demi-journée comme ça, oui, on est content de les aider.
On est plus le même dans le téléphone.
Et quand ils me rappellent pour me demander s'ils ne peuvent pas les aider encore sur un deuxième projet, je le passe en comité. Voilà, je le passe en comité, même si on n'a pas le droit. Voilà, exactement. Et je sais qu'il ne faut pas s'enflammer parce que quand on arbitre, il faut arbitrer équitablement.
Mais là, c'est très concret, vous savez.
Mais voilà. Et le fait de rencontrer les gens, de voir un tel engagement sur le terrain et voir qu'on peut facilement aider et débloquer des situations, il faut le faire. Quoi. Voilà.
Ok. Olivier Samuel, je voudrais vous laisser le mot de la fin. Vous êtes celui qui a amené ce fonds sur Strasbourg, qui a mutualisé l'information ici et qui a aidé pas mal d'associations. Je voulais que vous nous disiez, vous, quel est votre mot de conclusion par rapport à ça.
Pour moi, c'est un seul mot, hein, c'est la reconnaissance et la fierté. Reconnaissance d'une part du tissu associatif qui a su répondre aussi de façon constructive, intelligente à l'offre ou à la proposition du Fonds Myriam, et puis de l'autre côté reconnaissance du Fonds Myriam qui a su mettre en place une initiative intéressante et puis une approche originale, et puis vraiment un sentiment de fierté aussi d'appartenir à une dynamique collective, un collectif de gens avec lesquels on partage des valeurs communes, tant dans l'altruisme que dans la façon de voir une évolution communautaire. Il y a un point sur lequel on n'a pas insisté, mais c'est aussi l'ouverture du Fonds Myriam qui n'a aucune cloison communautaire. Et je crois que ça, c'est aussi très, très innovant.
Ce que vous voulez dire, Olivier, c'est que le Fonds Myriam a su aider des institutions, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais très religieuses, d'autres beaucoup moins religieuses. C'est ça que vous voulez dire. Ouais.
Hein. Sans distinction, orthopraxiste, mais plutôt pragmatique. Et je crois qu'un juif en souffrance, c'est un juif qu'on peut aider, qu'il soit là ou à gauche ou à droite.
J'ai rien à ajouter, c'est vraiment le meilleur mot de la fin qu'on aurait pu trouver. André Ben-Simon, directeur du Fonds Myriam, merci beaucoup de votre venue dans les studios de Radio Judaïka. Olivier Samuel, membre élu du consistoire, merci d'avoir participé à cette émission avec nous. C'est un grand plaisir en tous les cas de vous avoir reçu tous les deux aujourd'hui.
Merci pour votre accueil.
Bonne journée. Communiquer.